Juste ce qu'on pourrait compléter, c'est que si on veut éviter tous ces biais, il faudrait avoir accès aux données individuelles anonymisées des gens qui participent aux essais cliniques. Ce n'est pas possible aujourd'hui, et ça c'est un grand problème pour être sûr, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure on se fait truander quand on n'a pas accès à ces données.
Alors il y a peut-être des questions ou on les réserve pour plus tard, je sais pas Alain, tu vois.
Non.
On les reporte.
Non, on les prend maintenant. On les prend maintenant.
Oui, alors moi je suis un petit peu déçu par la présentation que vous avez faite, parce qu'en pratique, il y a un problème majeur, c'est que je ne comprends pas comment des statisticiens peuvent vous dire que derrière les courbes de Kaplan-Meier, il y avait un modèle sous-jacent. Il n'y a pas de modèle sous-jacent derrière les courbes de Kaplan-Meier. Il y a un modèle sous-jacent dans le modèle de Poisson, mais pas dans les courbes de Kaplan-Meier. Donc ça, c'est faux. Donc je ne sais pas comment on peut vous dire un truc pareil. Ensuite, la problématique des censures. Les censures, c'est l'élément clé, je pense, qu'il faut retenir par rapport à la censure, c'est que l'idée de la construction de ces courbes de survie, c'est de prendre en considération l'ensemble des informations qui sont disponibles. Alors je suis d'accord qu'il y a un point sur lequel il faut être très vigilant, c'est quelles ont été les méthodes retenues pour s'assurer que les pertes de vue ne sont pas des décès. Puisqu'en pratique, étant donné qu'on construit des courbes de survie, c'est clair que si on n'a pas été suffisamment vigilant, si on n'a pas mis suffisamment de moyens pour s'assurer que les pertes de vue ne sont pas des décès, c'est catastrophique. Donc ça, c'est le point clé dans toute lecture critique d'une étude de survie, c'est de savoir quels ont été les moyens qui ont été mis en place pour s'assurer que les pertes de vue ne sont pas des décès. Ça, c'est le premier. Ensuite, l'intérêt des courbes de survie, c'est justement d'incorporer toute l'information disponible. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on puisse vous dire qu'on va enlever les censures, parce qu'en pratique, c'est quoi la censure? La censure, c'est de dire, en fait, je prends un échantillon de 100 patients, là-dedans, il y en a qui vont s'arrêter pour différentes raisons. La seule chose qu'il y a, c'est que dans la construction d'une courbe de survie, ces patients qui vont s'arrêter, ils vont contribuer à la construction de la probabilité de survie à hauteur du temps pendant lequel ils ont été dans l'essai. Donc ça veut dire qu'on garde l'information, alors que dans des études autres qui ne sont pas sur des constructions de courbes de survie, ces patients-là, on les vire. Parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Alors que là, dans la construction d'une courbe de survie, on va les garder jusqu'où? Pendant tout le temps où on a l'information. C'est-à-dire que le patient qui est perdu de vue au bout de 10 mois, on sait qu'au moins, jusqu'à 10 mois, il était toujours vivant. C'est-à-dire qu'il était dans l'étude, mais il était toujours vivant. Donc il était là, et donc on le prend en compte. Donc l'idée de construire une courbe de survie, c'est vraiment de prendre toute l'information qui est disponible. Donc de dire on va virer les censures, c'est une aberration. C'est contraire à justement l'idée de la construction d'une courbe de survie qui est de prendre en compte toute l'information. Voilà.
Non, je peux virer les. Je crois que bon, je me suis mal exprimé probablement. Retirer une à une chaque bâtonnet, c'était pour les compter, pour dénombrer et voir si ça correspond à ce qui était en dessous de la courbe. D'accord ? C'est simplement un mode pour vérifier un point. Si on a bien autant de marques de censure que ce qui est indiqué sous la courbe. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, ça me tend une perche pour faire une précision qui est importante. C'est que, comme vous le voyez, hein, le nombre de perdus de vue décline très très vite. Et en fin d'essai, on a pratiquement plus rien. Ici, par exemple, on a 5 patients à risque dans chaque groupe. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on ait le même nombre dans chaque groupe, alors qu'on a un médicament miraculeux. Hein. Bon. Et donc, il suffit qu'un seul patient décède, par exemple, là, ici, et on a 20% de baisse de la probabilité de survie. C'est normal. 1 sur 5. On passe de 5 à 4 patients. D'accord ? Donc, les auteurs avertis savent très bien que les queues de l'analyse de survie, il y a une incertitude qui est majeure. Et donc, ils recommandent de s'arrêter lorsqu'il ne reste plus que 10 à 20% de patients à risque. C'est-à-dire, pour 150 patients dans chaque groupe à peu près, ça veut dire entre 15 et 30. Donc il faudrait s'arrêter là. Et la suite de la courbe, elle n'a pas de valeur parce qu'il y a trop peu de patients à risque. Voilà. Et l'incertitude est trop grande.
Alors, je ne sais pas si vous avez dû voir passer il y a quelques années, je crois que c'est Richard Broughton, le rédacteur en chef du Lancet, qui avait dit qu'il y avait à peu près la moitié des publications qui étaient avec des données bidons. Donc c'est, voilà, donc c'est déjà une première chose à prendre en considération. Et après, moi, ce que je remarque sur les publications scientifiques, c'est qu'en fait, il n'y a pas de transparence réellement. Donc on est obligé d'essayer de deviner ce qui se passe, refaire les calculs, vérifier. C'est un boulot de dingue. Et du coup, c'est un peu le problème des publications scientifiques, c'est que c'est fait de telle façon qu'on soit obligé de les croire sur parole sans vraiment avoir accès aux données. Donc en fait, c'est pas vraiment de la science. On est obligé de deviner si c'est vrai ou pas.
Absolument.
Et du coup, on est obligé de tomber dans la croyance quelque part. Donc, c'est catastrophique.
Tant qu'on n'aura pas les données anonymisées individuelles,
voilà.
On peut toujours se faire.
Voilà. Exactement. Donc, c'est soi-disant pour des raisons de secret industriel, et finalement, c'est juste pour tromper.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
C'est malheureux.
Le docteur Rouille.
Puis le directeur du Lancet, c'est pas n'importe qui. Quand voilà. Il dit ça, on peut quand même se poser des questions.
Moi, je ne vais pas revenir sur votre intervention, mais de façon globale, on a déjà été commenté et j'adhère aux commentaires qui ont été faits. Probablement que j'ai mal entendu, ou peut-être mal exprimé, c'est certainement que j'ai mal entendu. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un effet que vous avez présenté essentiellement sur. À un moment, on dit que ça fait 85% des patients qui sont traités de façon inutile. Non, je suis désolé.
15%
seulement. Quand on a un patient qui est dans un essai thérapeutique, dans le bras contrôle ou dans le bras testé, il est évalué sur la réponse tumorale tous les 2 mois. Et le traitement est interrompu dès lors qu'il y a une progression tumorale. Et donc, les patients qu'on voit ne sont pas, ils sont peut-être vivants, mais ils ne sont pas tous traités.
Oui, certes.
Voilà. Non, mais ça pose un problème éthique. Parce que quand vous faites, un traitement, je ne parle même pas des traits, de type adjuvant, c'est-à-dire des malades guéris, vous faites un traitement complémentaire pour diminuer un risque, vous traitez de façon inutile un certain nombre de malades, et de façon inefficace, puisqu'ils vont récidiver plus tard, un certain nombre d'autres malades. Tout ça pour dire que derrière ces effets, et je trouve que c'est dommage que vous ne l'ayez pas abordé, il y a tout un problème d'éthique médicale. Qu'est-ce qu'on peut imposer ? Là, vous avez parlé. À aller plus loin, vous avez parlé des effets pour des malades porteurs de tumeurs, et non pas pour des effets d'adjuvant, d'autres problèmes statistiques, bon, parce qu'il y a des durées de suivi beaucoup plus longues. Pour les malades qui sont en cours de traitement, oui, les malades sont des cobayes, mais il faut le dire, moi j'utilise le mot avec les patients, mais c'est pas honteux. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, les essais servent d'abord à faire l'essai ultérieur avant de traiter les malades. Et oui, non, les patients ne sont pas traités de façon poursuivie en traitement si le traitement n'est pas efficace. Ils sont traités d'une autre façon, avec une autre molécule, peut-être hors effet, peut-être dans un effet. C'est pas pour ça qu'on ne les suit pas. Ils sont suivis.
Je voudrais faire une petite précision en complément. Moi, personnellement, ce qui me gêne beaucoup, et j'ai pris le nectar, hein, c'est-à-dire le Keytruda en première ligne dans cancer bronchique non petite cellule, n'est-ce pas ? Et c'est le seul où on utilise un score de proportion tumorale pour définir les patients entre guillemets, bons répondeurs. On s'aperçoit que les bons répondeurs ici, parce qu'ils ont tous plus de 50%, les patients ont été sélectionnés sur un score de proportion tumorale d'au moins 50% de cellules tumorales exprimant le gène PD1. Et donc, malgré cela, parce que par exemple, si on prend l'Opdivo de BMS, c'est 1%. Tous les patients sont traités. Dans les autres indications du Keytruda, il n'y a pas les 50%, tout le monde y passe. Ce qui n'est pas éthique, ça a été de ne pas utiliser ces scores de proportion tumorale, tout comme d'ailleurs pour le trastuzumab, etc., les thérapies ciblées, on a les résultats des tests génomiques qui permettent, et on ne les utilise pas pour justement sélectionner. C'est un peu le contraire de ce que vous avez présenté tout à l'heure avec ce test de dépistage qui permet d'identifier les patients qui seront mauvais répondeurs. Eh bien, non, Big Pharma préfère traiter tout le monde parce que c'est plus juteux de traiter tout le monde.
Je vais quand même te répondre sur ce point-là, qui est un problème en effet, mais il y a une évolution des choses. Au départ, on n'a traité que les malades qui avaient le marqueur de et on a démontré qu'il n'y avait pas de lien.
Si, si, on a démontré. On a démontré le contraire. Non, non, non.
La présence, en particulier pour le PDL, entre la présence et l'efficacité, qui est certes moindre, mais qui existe.
Alors, il faut regarder les diapositives que j'ai présentées au colloque l'année dernière. Hein, et j'ai, dans les suppléments, hein, les appendices des publications, on trouve des études stratifiées. Et là, on s'aperçoit qu'au contraire de ce que vous venez de dire, il y a une proportionnalité parfaite. Et qu'il faudrait peut-être mettre la barre à 75% de cellules tumorales.
Oui. Dire que l'absence de marqueur est un facteur prédictif de non-réponse.
Oui, aucun effort n'a été fait.
Ouais.
Non, 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 je mélange pas, je ne crois pas. On en reparlera.
Bon, on va
en aparté.
Se lancer dans un débat très technique,
ben voilà, oui.
Parce qu'on n'aura jamais fini.
Mais je maintiens quand même les 15 et 17% seulement de patients qui bénéficient du traitement. Les autres ne bénéficient pas de prolongement de leur vie. Voilà,
oui.
C'est quand même un piètre.
Mais comment tu les identifies ?
Avec le score de proportion tumorale et en mettant la barre un peu plus haut. C'est tout.
On va passer à la présentation suivante. C'est un débat très technique. Voilà. C'est intéressant, mais c'est très technique.